dans la rue des bons enfants, on vend tout au plus offrant. Il y avait un commissariat et maintenant il n'est plus là.
Le sexisme est là, tout le temps. Des remarques sexistes ordinaires jusqu'à la violence, dans notre langage, dans la culture, dans nos manières de penser, nos cuisines, nos familles, et jusque dans nos orgas militantes. Dès lors, représenté comme ça, une notion abstraite, naturalisée, sans cause, sans personne pour en bénéficier, ni pour la maintenir comme un système de domination, comment lutter? Face à qui? Dans ce nouvel épisode, c'est à l'engagement féministe qu'on va s'intéresser. C'est un sujet que je connais mal, vu que je ne m'implique pas directement dans les luttes antisexistes, mais j'adhère à ce principe selon lequel ce sont aux personnes concernées par une discrimination de mener leur lutte comme elles l'entendent. J'ai senti que j'avais besoin d'aide pour aborder ce sujet, et j'ai donc fait appel à ma potesse Gab. Salut Gab.
Salut Sam.
Est-ce que tu veux bien te présenter ?
Je m'appelle Gabrielle, je suis une femme cis blanche dans la trentaine. Je me suis intéressée relativement tôt aux questions féministes, on va dire au lycée. Mais je ne me considère pas comme une activiste militante, on va dire. Je fais partie de la caste des féministes hystériques, clairement, mais je ne fais pas partie d'une organisation de lutte sur le sujet. Quand tu m'as proposé d'interviewer Mathilde avec toi, j'étais tout de suite intéressée parce que ça fait un moment que je cherche personnellement l'énergie d'amener ma lutte, enfin ce sujet-là, au niveau suivant et au niveau de l'action.
Yes, merci. Et tu m'avais prêté un bouquin, Notre corps nous-mêmes, sorti en 2020 aux éditions Hors d'atteinte. Et ce bouquin se décrit comme un manuel féministe qui s'intéresse principalement au corps des femmes, sans jugement. Au départ, il est plutôt destiné à des femmes cis, mais moi, en tant que mec cis, je l'ai trouvé à la fois riche et accessible. Est-ce que c'est un bouquin que tu conseillerais à nos auditeurs hommes cis ?
Ça peut être intéressant à lire, effectivement. Le mieux, je pense que c'est demander à vos potes femmes, et en particulier vos potes féministes, qui ont probablement une bibliothèque dotée de bouquins intéressants sur le sujet, et si elles peuvent... vous prêter des ouvrages et puis comme ça vous pouvez en discuter derrière, etc. Parce que au-delà de lire le livre, c'est aussi l'échange qui est intéressant.
Parmi les co-autrices de ce bouquin, Notre corps nous-mêmes, il y a une certaine Mathilde Bléza. Elle est militante féministe, journaliste et autrice, et c'est elle qu'on est allé interviewer à Marseille. Aujourd'hui, on s'intéressera à son parcours militant et à l'engagement féministe. Et j'ai choisi de réserver le sujet de l'autodéfense féministe à la seconde partie. C'est quoi tes impressions sur l'enregistrement ? Qu'est-ce que tu as retenu de tout ça ?
J'ai trouvé l'interview vraiment super intéressante. J'aurais pu rester à interroger Mathilde encore longtemps sur les formes de lutte féministe, sur comment garder espoir, comment lutter, etc. Et c'était vraiment, vraiment chouette. Et en même temps, à la fin, j'étais vraiment claquée. C'était une belle rencontre, vraiment très nourrissante. Et si je devais donner une chose que j'ai retenue, c'est le fait de, pour lutter, pour garder l'espoir, pour avoir l'énergie, le plus important c'est de lutter et de faire ensemble. Et c'est là où je me suis dit, allez, c'est parti, je vais rejoindre des orgas suite à cette rencontre, donc ça m'a bien motivée. Donc je pense que le déplacement à Marseille, ça valait vraiment la peine.
Yes, effectivement, la dimension collective, c'est quelque chose qui est très présent dans le message porté par Mathilde. Et j'en profite par ailleurs pour remercier les camarades de la base. C'est un local pour les luttes écologistes et sociales, et c'est là-bas qu'on a réalisé l'enregistrement. Dernier truc avant qu'on rejoigne Mathilde, pensez à vous abonner sur votre appli de podcast. Abonne-toi, le ciel t'aidera, comme disait l'autre.
Abonne-toi et ce sera la fin du patriarcat.
Je m'appelle Sam, je suis un mec cisgenre racisé. Bienvenue à toutes et tous au numéro 11 de la rue des bons enfants.
Dans la rue des bons enfants, viande à vendre aux plus offrants, l'avenir a Dieu en place et le vieux monde est à la casse.
J'ai aujourd'hui le plaisir d'être avec Mathilde Bléza. Salut Mathilde.
Salut.
Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et le thème principal de l'épisode qu'on enregistre aujourd'hui, ce sera le militantisme féministe. Et pour aborder ce thème, j'ai fait appel à la camarade Gab pour venir m'épauler. Salut Gab.
Salut Sam, salut Mathilde.
Ça me fait un gros plaisir de faire cet enregistrement avec vous aujourd'hui. Alors Mathilde, je ne sais pas exactement avec quel terme tu voudrais être présentée, alors je vais te laisser le faire. Et ce qu'on te propose, c'est qu'on s'intéresse d'abord à ton parcours, ton travail, tes engagements, et puis à deux sujets. D'abord, le militantisme féministe, et puis à l'autodéfense féministe.
Ok.
Alors, ma première question, est-ce que tu pourrais te présenter ?
Moi, c'est Mathilde. Actuellement, disons que je suis journaliste indépendante et autrice. Je travaille pour différents médias en tant que pigiste, des médias féministes comme La Déferlante, Panthère Première, et puis d'autres médias pour manger, quoi. Je travaille pour un média sourd en français et langue des signes, parce que par ailleurs, je suis à moitié sourde, donc c'est des questions qui m'intéressent pas mal et qui me touchent beaucoup. Voilà.
Et le média sourd, c'est le...
Ah, Mediapi. Okay. Ça s'appelle Mediapi. C'est un média en ligne, en fait. Du coup, il y a des articles soit en français écrit, mais tout est interprété, enfin tout est traduit en langue des signes. Sinon, pour me présenter, j'habite à Marseille. Ça fait depuis longtemps que je suis dans les luttes féministes, dans les luttes sociales, anticapitalistes en général. En gros, depuis 15-20 ans, quoi.
Dans ton parcours, tu nous avais dit avant l'enregistrement que tu étais d'abord plutôt rentrée par le biais des luttes sociales plutôt que par la question du féminisme.
Oui, dans le militantisme en tout cas, j'ai plutôt commencé vers la fin du lycée ou en tout cas les premières années à l'université à participer à différentes luttes sociales, anticapitalistes, syndicales, assez classiques finalement quand on est étudiante. Et aussi à rencontrer le milieu des squats, anarchistes et tout ça, notamment lors d'une année de master en Angleterre. Et dans ce cadre-là, ouais, je participais à des activités comme ça de squats, que ce soit des bouffes de rue, enfin, des manifs et tout ça. Je n'ai pas grandi dans une famille militante, donc déjà les termes militants, je les avais pas, enfin, font pas partie de mon éducation. Mais bon, j'ai quand même été éduquée dans un truc où les filles, il faut qu'on se débrouille, il faut qu'on gère, parce que sans avoir des parents féministes, j'avais bien compris que ça ne viendrait pas comme ça. Enfin, la vie n'était pas toute rose pour nous et qu'il fallait se battre. Et voilà, j'ai aussi deux sœurs et tout. Enfin, il y a pas mal de femmes dans ma famille. Donc je pense que de manière finalement sensible ou en tout cas liée à l'enfance, j'étais déjà... un peu féministe, quoi. Mais en tout cas, en termes militants, non. Enfin, j'avais que l'image qu'on en avait un peu caricaturale dans les médias dans les années 90, où c'était ce qu'on appelait les chiennes de garde. Enfin, bref, c'était mal vu, quoi. Et la première fois où j'ai rencontré un peu le monde féministe militant en Angleterre, c'était un mec d'un squat qui m'avait dit qu'il y avait des meufs qui voulaient ouvrir un squat non mixte. Et il m'avait dit d'ailleurs, du coup, il y a un peu de paternalisme dans ça, il était plus âgé, il m'a dit, il faut absolument que tu y ailles. Ce qui est un peu bizarre à posteriori, tu te dis, encore un gars qui essaie de m'aiguiller sur un truc. Mais j'y étais allée. Et alors là, j'étais comme un enfant qui regarde des trucs, qui ne comprend pas ce qui se passe, mais qui comprend que c'est intéressant. Parce qu'elles étaient en train de discuter de la non-mixité, mais aussi des mixités de genre... Voilà, les femmes trans, les personnes transmasculines, et est-ce que parfois on ouvre pour des événements aux mecs cis aussi, ou aux mecs gays, enfin il y avait tout, et le débat sur les personnes trans et tout, c'était genre, je comprenais pas où j'étais, mais je trouvais ça assez fascinant, parce que c'était vraiment beaucoup plus poussé que juste la non-mixité femme, quoi. Donc voilà, mais après j'étais partie, voilà.
Alors pardon, ça, ouais. Tu disais que c'était en Angleterre dans les années 2000, par là ?
C'était en, 2004, 5, okay. Comme ça. Mais je ne suis pas restée dans le pays. Et en fait, après, moi, j'avais vécu en Turquie. Et c'est vraiment là que j'ai participé d'ailleurs d'abord aux luttes. Il y avait un contre-sommet. Les contre-sommets, il y avait un sommet du G20 ou je ne sais plus quoi, un truc du genre. Et moi, c'était quand je venais d'arriver à Istanbul pour vivre. Et donc là, il y avait un peu un espèce d'énorme rassemblement d'anticapitalistes, d'anarchistes, etc. Donc là, j'ai tout de suite connu une bonne partie du militant d'Istanbul. Et j'en viens du coup à l'entrée dans le féminisme, où en fait, en Turquie, les mouvements féministes et LGBT sont hyper présents dans les luttes sociales. Enfin, à part dans les mouvements, peut-être vraiment les organisations très communistes qui existent en Turquie, il y en a des historiques qui sont très massive. Et dans le milieu plus autonome ou anarchiste, disons, les luttes, elles sont quand même énormément menées par des militantes féministes et des personnes LGBT en lutte, quoi. Donc, voilà, sur cette histoire de contre-sommet, sur des autres histoires sociales ou même liées au Kurdistan et tout, bah, il y avait toutes ces personnes-là de ce milieu, disons, féministe LGBT. Et c'est comme ça que j'en ai connu plein et que j'ai commencé à des réunions féministes. C'est comme ça que je suis rentrée dans les luttes féministes, quoi. Que j'ai découvert des brochures qui étaient écrites en français, mais qu'on m'a fait découvrir là-bas. J'ai découvert un faux kiosque. Fin...
Un infokiosque, c'est un étal, éphémère ou non, qui propose des brochures, des livres, lors de manifs, de camps ou dans des locaux. Mathilde fait ici allusion à infokiosque.net avec un S, qui est un site internet qui regroupe des infokiosques et des brochures francophones depuis 2002.
Plein de choses, finalement, sans être en France. Des brochures sur le viol, enfin, c'est des choses comme ça, vraiment, qui m'ont ouvert la tête sur plein de questions. Voilà.
Du coup, à la suite, ça a été quoi ton parcours féministe ?
Quand je suis revenue vivre en France dans les années 2012-13, bah, en fait, c'était aussi toujours ces milieux militants, plus ou moins anarchistes, autonomes, à Paris, ailleurs, liés à des luttes pour les logements, des luttes pour les papiers, plein de luttes. Là aussi, j'étais d'abord dans des luttes sociales plutôt. Et dans le même temps, j'ai rencontré des meufs qui organisaient une marche de nuit à Paris. C'est un collectif qui s'appelait Rage de nuit. Et du coup, j'ai commencé par ça, là, dans les années 2012. Et en fait, c'était plein de militantes de long terme de Paris. Moi, je ne connaissais pas Paris avant, en fait. Je n'étais pas de Paris, ni rien. Donc, c'est là aussi où vraiment j'ai connu les militantes en France, féministes non institutionnelles. Et qu'on a organisé des marches de nuit, que j'ai découvert le principe de la marche de nuit, j'étais complètement emballée. Et après, bah, ça a continué. Le parcours, c'était quoi ? C'était. Oui, on organise une marche de nuit, on organise, je sais pas moi, des collectifs sur autre chose en même temps, sur des violences. Même en arrivant à Marseille, c'était pareil. Ça a vraiment commencé par l'organisation de la première marche de nuit en 2015. Enfin, je suis arrivée à ce moment. Un peu avant, participer à cet orga-là. Et tous les autres activités qu'on peut faire, manifs ou actions qu'on peut faire dans ce cadre-là, en fait.
Tu parlais de marche de nuit et tu disais que sur le principe, ça t'avait vachement emballé. Qu'est-ce qui finalement t'a attiré dans cette façon de faire et qu'est-ce que tu penses que ça a accompli, j'allais dire, entre guillemets, à quoi ça sert, quoi ?
C'est une pratique de non-mixité. Donc déjà, la mixité choisie ou la non-mixité, ça décale beaucoup de choses. Se retrouver entre personnes discriminées sur une question, hein, c'est pas forcément le sexisme, ça peut être plein d'autres questions. Déjà, ça déverrouille des choses, c'est-à-dire qu'on se retrouve là, en l'occurrence, entre femmes ou personnes trans, ça dépend des mixités, discuter de féminisme, de choses comme ça, c'est déjà fort. Mais moi, je trouvais que le côté dans la rue... Enfin, moi, j'ai toujours beaucoup aimé déjà les manifs. Enfin, j'aime bien être dehors. Voilà, donc ça me parle beaucoup. Mais de faire ça de manière massive dans la rue, la nuit, je trouvais ça assez extraordinaire parce que c'est vrai que c'est un espace où on est, en tant que fille, on est souvent assez isolé. Seul dans la rue, on se fait quand même souvent emmerder ou on a peur de se faire emmerder. Enfin, c'est de la peur ou de la réalité, c'est un peu des deux. Et moi, je ne m'imaginais pas ce que ça pouvait changer de faire une manif qu'entre meufs et personnes trans. Par rapport à une autre manif, moi j'avais fait plein de manifs, y compris assez dynamiques. Mais en fait, si, c'est, je ne sais pas, il y avait une énergie de dingue. Il y a une espèce de liberté d'un coup et de puissance assez magique. Ouais, il y a beaucoup de joie déjà, et puis ouais, parce qu'on sent que tout le monde a envie de se libérer de cette pression, de la peur, de la nuit et de l'espace public. Et aussi, on se rend compte aussi des confrontations auxquelles ça peut mener, parce que à Paris, une des marches de nuit, c'était dans les quartiers du centre, à Bastille, où il y a plein de bars et tout ça, et on avait beau être 300, il y avait quand même des gars tout seuls ou à deux, des petits mecs, je sais pas, de 20 ans, des petits blancs. Qui sont au bar, qui pensaient, enfin, qui allaient nous insulter ou se mettre en mode combat et qui pensaient dans leur tête finalement que face à 200 meufs, ils pouvaient gagner. Quoi. Alors moi, j'ai halluciné complètement. Je dis, mais à quel point l'éducation peut nous rendre complètement vulnérables ou invulnérables. Et donc, il y avait quand même plusieurs fois sur le parcours des comportements comme ça et c'était un peu hallucinant. Enfin. Et après ça, ouais, moi, ça m'a encore plus motivée sur les actions en non-mixité. Voilà. Bah, c'était le truc de se réapproprier la rue, quand même. C'est vraiment ça. On grandit, si on est éduqué comme une fille, on grandit avec les injonctions à ne pas sortir la nuit seule, habillée d'une façon ou d'une autre. Et donc là, c'est vraiment prendre ce contre-pied-là, avec aussi plein de revendications sur plein d'autres choses, plein de slogans, plein de meufs qui taguent. Enfin voilà, il y a aussi revendiquer d'autres choses sur plein de domaines liés aux discriminations, quoi.
Donc, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui sont un peu sceptiques sur cette question de non-mixité en marche de nuit, tu leur recommanderais plutôt d'essayer au moins pour voir quoi.
Je crois que c'est exactement ça. Et on va en reparler sur l'autodéfense féministe ou autodéfense pour les femmes. C'est un truc qui se retrouve souvent. Il y a des personnes, elles viennent à des marches de nuit, elles sont contre la non-mixité, elles sont contre ce principe-là et elles deviennent complètement dingues de ce procédé deux heures après. Donc, il y a vraiment ce truc d'expérimenter corporellement la non-mixité ou la mixité choisie. L'expliquer, c'est moins fort que de la vivre. Et j'ai essayé de l'expliquer plein de fois et j'ai amené des gens dans des trucs. Et en fait, ça, quand elles l'ont vécu corporellement, ça n'avait rien à voir. Et dans l'écriture, par contre, moi, ça faisait longtemps que je travaillais un peu dans l'écrit. Parce qu'en Turquie, je travaillais pas mal à la frontière avec l'Iran. Je travaillais beaucoup sur les politiques migratoires et notamment le financement par l'Union européenne de tout ce qui est répression des migrations, que ce soit centre de rétention, sur les no-borders, sur tout ça.
Les no-borders sont des militants et militantes qui luttent pour l'abolition des frontières et viennent en aide aux personnes migrantes face à la répression de la police.
Et dans l'écrit aussi, quoi. Au bout d'un moment, j'ai commencé à écrire sur les questions féministes. On a fait un numéro de la revue Z à Marseille que j'ai coordonné, qui était vraiment sur plein de questions féministes.
La revue Z, c'est un magazine créé en 2009 dont la particularité est de fonctionner en itinérance. Son principe est, je cite, « s'immerger dans la réalité d'un territoire, enquêter collectivement, prendre part aux luttes ». Le numéro coordonné par Mathilde est sorti en 2016 et est intitulé « Bonne femme, mauvais genre ».
Et après, j'ai intégré l'équipe de Notre Corps Nous-Mêmes. Voilà, donc c'était une grosse aventure. Et voilà, là, sur l'autodéfense féministe. Mais disons que l'écrit est arrivé après, quoi. C'est un peu mon mode de lutte en ce moment, lié aussi parce que j'aime bien écrire. Et puis, moi, j'ai eu deux enfants en 7 ans, quoi, en 6 ans. Et que du coup, j'étais beaucoup chez moi. Et enfin, voilà, ça m'a aussi... poussé à plus à me dire que ben je fais pas juste rien pour le féminisme mais...
Tu dis que quand tu étais en Turquie, c'était vraiment des féministes qui portaient des luttes sociales. Après tu as parlé que dans les manifs mixtes, c'était pas forcément des sujets qui étaient apportés. Du coup la question que j'aimerais te poser c'est est-ce que tu as l'impression que la question du féminisme, c'est quelque chose qui peut être porté dans des orgas mixtes, dans des orgas pas dédiés au féminisme? Est-ce que c'est un sujet qui est porté? Est-ce que c'est un sujet qui est bien amené? Est-ce que c'est compliqué? C'est quoi ton avis là-dessus?
Honnêtement, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont bougé ces dernières années. Moi, j'étais plus en train d'écrire des livres. Donc, je suis un peu vieille peut-être sur cette question. Mais honnêtement, mais même on le voit ici. Moi, j'ai dû arriver il y a 7-8 ans à Marseille. Et c'était pareil ailleurs. Hein. J'étais sur d'autres luttes. Il y avait, les féministes, soit on faisait des marches de nuit ou des collectifs d'un autre coin, et on était plein à être militantes dans les milieux anarchs, autonomes, etc., ou d'ultra-gauche ou extrême-gauche, et dans lesquels ces questions-là n'étaient pas abordées, ne voulaient pas être abordées. Il y avait beaucoup de réticences, même de violences contre nous, finalement. Enfin, il y a même une émission de radio à Marseille en mixité choisie, à cette époque-là, il y a déjà 10 ans, s'appelait le complot des cagoles, et en fait elles s'étaient appelées comme ça parce que elles étaient toutes dans le milieu militant, mais elles disaient pas qu'ils participaient à l'émission, et il y avait tout ce truc de... enfin elles étaient à l'antenne, Mais comme c'était mal vu, en fait, elles ne disaient pas, donc il y avait ce truc de complot. Enfin,
elles ne disaient pas leur identité, quoi. Elles ne disaient pas leur identité.
Non, okay. Mais tous les militants savaient qu'elles faisaient partie du milieu. Okay. Mais... Et voilà, pour organiser un truc sur ces questions-là, c'était, c'était des négos pas possibles. Et moi, je me rappelle, oui, de luttes ou à Paris ou ici, ou si, par exemple, sur une grande lutte, on pouvait avoir entendu des histoires de violence. Personne ne nous croyait, on nous prenait pour les relous, les hystériques, les chiantes, quoi, qui veulent foutre la merde. Et même si c'était juste de dire, il y a vraiment quelqu'un qui agresse les gens le soir, enfin, et tout. Donc c'était où on disait de laisser tomber. Moi, je me rappelle vraiment, voilà, de luttes où on me renvoyait ça, où je vais differ des tracts au 1er mai sur la marche de nuit et les camarades qui vont tomber dessus en me disant, ah, en fait, t'es sexiste. Enfin, vraiment, j'ai l'impression qu'on a changé de monde et ces mêmes gens-là ont changé aussi en toutes ces années. C'est finalement pas énorme, c'est moins de 10 ans. On a quand même pas mal changé. Je pense que dans les collectifs plus... Enfin, dans les militants plus jeunes, qui ont 20, 30... Enfin, moi, j'ai 37, 38, qui ont une vingtaine d'années, ces questions-là sont beaucoup plus présentes. On l'a vu aussi, des commissions non mixtes se créer dans des orgas antifa, dans les orgas d'extrême-gauche... Enfin, des partis ou des syndicats d'extrême gauche, on a vu s'en monter en fait ces dernières années des assemblées de lutte, de discussions sur les violences fondées sur le genre, etc. Donc je pense que c'est plus pris en compte qu'avant. Et j'ai vu aussi pas mal de camarades meufs anarchistes qui sont devenues féministes, alors qu'en fait il y a 10 ans ou il y a 8 ans, elles étaient anti ça, parce que c'était un milieu qui quand même revient de loin sur le féminisme. Pour le coup, et je pense que c'est pas du tout gagné encore, mais il y en a plein qui sont devenus féministes depuis. Alors que moi, j'avais vraiment cette image d'une époque où c'était plein de meufs qui étaient quand même hétéros, en couple avec d'autres mecs du milieu, assez charismatiques, et du coup, c'était anti-féministe, quoi.
Est-ce que tu peux élaborer un peu sur ce truc de femmes anarchistes qui sont anti-féministes? Pour quelles raisons?
Non, mais c'était... On parlait, enfin, il y avait un truc de protection du patriarcat, je sais pas comment dire. C'est pas les sujets de lutte, quoi. C'était
protection du statu quo.
Du statu quo, des violences, des violeurs, des agresseurs, tout en subissant elles-mêmes des violences, tu vois. Mais c'était mal vu, quoi. Et ça a beaucoup bougé, avec MeToo, je pense, avec de plus en plus de trucs féministes qui sont créés dans des collectifs mixtes. Et ça a ouvert la possibilité que ça existe. C'est pas que les personnes, elles étaient antiféministes de manière militante antiféministe. C'était qu'elles connaissaient pas et que c'était tabou. Moi, j'avais dans des collectifs mixtes... Comme après, on était quelques-unes à être identifiées, les organisatrices de marche de nuit, enfin, en tout cas d'être dans cette case un peu féministe où il n'y avait pas grand monde. Et c'était quand même une époque où c'était le désert, enfin, dans les luttes féministes, hein, de manière générale. Des personnes qui venaient me voir en me disant lui qui est mon copain, c'est le couple mythique de la lutte, il me tabasse, il me tape, machin, mais surtout n'en parle à personne. En fait, c'est ce truc-là où j'avais des gens qui venaient se confier, mais en même temps, il ne fallait surtout pas qu'on en parle. Et donc, du coup, on en parlait. Enfin, moi, mon truc, c'est d'écouter la personne qui vient me confier un truc. C'est pas de faire un truc contre sa volonté, elle. Mais entre deux portes, entendre des choses et en même temps avoir cette commande de ne pas rompre le statu quo. Et je pense que, honnêtement, des gens un peu plus jeunes que moi pourraient dire complètement autre chose. Je pense que ça... Enfin, j'ose espérer, mais j'ai l'impression que ça a bougé. Que c'est un peu moins facile. Moi, j'ai vu pas mal de gens changer là-dessus ces dernières années. Après, à côté de ça, il y avait toutes les orgas plus institutionnels féministes, enfin les assos féministes et tout ça. Moi, j'ai jamais milité dans ces assos-là, dans ces institutions. Donc, c'est tout un champ du féminisme que j'ai pas expérimenté moi. Donc, ce que je dis ne représente pas toute cette époque, quoi.
Par cette époque, tu veux dire, c'était plutôt en 2010, par là, quoi?
Oui, voilà, ces années-là.
Ouais. Ok. Mais finalement, Là, depuis le début, on parle de féminisme au singulier, un truc un peu englobant, mais toi, comment tu décrirais un peu ton féminisme, quoi?
Ou tes féminismes.
Ouais. C'est vrai que maintenant, on a plutôt tendance à le prendre au pluriel, les féminismes. Parce que, est-ce qu'il n'y a pas un féminisme universel? Et aussi parce qu'il y a des grands débats théoriques et politiques. Les grands débats étant, je ne sais pas s'il faut que j'en parle,
Tu peux, ouais,
les
si tu veux,
grandes
ouais.
dissensions étant sur. Ben, on dit souvent les féministes universalistes et les intersectionnelles, mais en fait, l'universalisme devrait pouvoir appartenir à tout le monde. Donc, il y a une frange des féministes qui est devenue plus de droite, disons, ben, qui est, comment dire, elle s'autoproclame universaliste, c'est-à-dire qui est contre les questions des minorités, de, je sais pas, qui vont être islamophobes, par exemple, contre les femmes qui portent le foulard. Qui vont être transphobes, qui vont être contre le fait qu'il y ait des personnes qui soient trans, qui le revendiquent, qui vont être abolitionnistes sur le travail du sexe, qui vont dire que, enfin, qui vont vouloir décréter que toute une catégorie de personnes sont opprimées et qu'il faut les sauver, en gros, sans écouter ces personnes-là ce qu'elles ont à dire. Qu'effectivement, il peut y avoir une travailleuse du sexe qui dit je suis opprimée et une autre qui dit voilà, je lutte pour mes conditions de travail. Mais ça a des gens qui vont plaquer des choses, ou sur les femmes musulmanes, par exemple, et du coup, vont être assez fermées dans leur féminisme, moi, je considère. Ça, c'est un peu les grandes dissensions classiques, hein, mais après, il y a plein de sujets entre les féministes. Et pourquoi on utilise au pluriel? C'est qu'aussi, il y a ce qu'on appelle dans les intersectionnalités, il y a avoir des afro-féministes. Des féministes, voilà, Andy, enfin, bon, y a plein de collectifs maintenant, depuis longtemps, hein, mais qui existent. Et donc, moi, comment je me positionne ben, moi, je me positionne du côté de celles qui prennent en compte les différentes discriminations, ce qu'on peut appeler l'intersectionnalité, autour du choix des personnes, enfin, voilà, d'écouter. Les revendications des unes et des autres, et du coup d'essayer de lutter pas que pour le féminisme, c'est-à-dire pas que pour le droit des femmes, mais plutôt continuer à lutter sur plein de fronts de discrimination et de violence, que ce soit la discrimination, enfin des violences sociales, quoi, vraiment des luttes sociales liées aux classes sociales, à la lutte des classes, ou que ce soit sur les questions de racisme, de validisme, qui sont les discriminations et violences. Lié au fait d'avoir un handicap ou pas, l'homophobie, la lesbophobie, la transphobie. Enfin, moi, ça ne m'intéresse pas d'être féministe juste pour lutter pour une catégorie de femmes ou pour juste les femmes. Enfin, c'est contre les oppressions et les discriminations en général. Je sais pas si c'est très clair ce que
Si,
je dis.
si, c'est clair, ouais.
Ouais.
Super clair. Moi, j'étais super contente quand Sam m'a proposé de participer à ce podcast avec lui parce que moi, j'ai du mal à me dire je suis militante féministe. Enfin, je me suis renseignée sur toutes ces questions-là. Je suis, on va dire, un peu éclairée, si on peut dire ça. Mais je me retrouve un peu démunie à pas trop savoir ce que je peux faire. Du coup, je suis un peu dans ce truc-là, genre, bah, je vois, ok, je vois, mais après, c'est qu'est-ce qu'on fait? Et je sais pas si tu as une réponse universelle à ça, mais du coup, c'était profiter un peu du fait que tu sois là pour te poser la question. C'est quoi pour toi militer pour le féminisme ou militer contre le sexisme ou qu'est-ce qu'on peut faire finalement?
Moi, dans le terme militant, militante, militer, j'y mets beaucoup de collectifs. C'est-à-dire que je pense qu'on peut militer tout seul, hein, il y a des gens. Mais moi, ça me parle moins. C'est-à-dire que je me sens militante si je fais des trucs en collectif. Et du coup, quand on fait des trucs en collectif, on a l'impression d'arriver à faire des choses, même si on ne gagne pas. Enfin, moi, je n'ai pas l'impression que jusqu'à la fin de ma vie, un jour, je vais dire, c'est bon, le patriarcat n'existe plus. Les rapports de domination n'existent plus. J'ai gagné, je peux me reposer, quoi. Donc, ça, j'y crois pas. Mais du coup, moi, je tiens, enfin, je me revendique militante. J'aime bien ce terme, dans le sens où. Pour moi, il s'inscrit dans un truc de faire des choses avec d'autres personnes pour voilà, gagner des revendications, emporter, etc. Donc, par exemple, que ce soit dans des collectifs ou quand on fait un livre comme Notre Camp nous-mêmes, on est neuf à le faire, Bah, en fait, pour moi, c'est une action militante parce qu'on s'est réunis énormément. On a fait beaucoup de travail d'enquête, mais on s'est aussi beaucoup retrouvés pour discuter théoriquement de ce qu'on veut dire, c'est quoi nos objectifs de lutte finalement, comment on les transmet. Dans un autre choix, ça a été un texte qui est accessible, enfin, qui n'est pas que pour les militantes, qui ne ressemble pas à un tract. Mais voilà, il y a plein de façons de faire. Hein. Je travaille dans d'autres revues militantes. Voilà, d'avoir ce truc stratégique entre nous à un moment donné pour faire avancer quelque chose. Quoi. Enfin, c'est ça la question que tu me poses ou... Ouais.
Mais, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ?
Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire plein de choses. C'est vaste, hein, les répertoires d'action, ils sont vastes, je ne sais pas. Ouais, on peut lutter sur plein de manières différentes, hein, que ce soit des assauts, des thèmes. Enfin, le féminisme, c'est varié, quoi, au quotidien. Mais je trouve que lutter tout seul, c'est presque contraire à l'idée de lutte, pour moi. Enfin, parfois, dès qu'on est deux, au moins, ça va, mais je trouve que c'est... Je pense que la première chose, c'est essayer de ne pas rester seul face à tout ce qu'on se reçoit dans la figure ou tout ce qu'on observe. Déjà, commencer à en discuter par le truc des groupes de parole ou de se retrouver en mixité choisie, même à trois ou à quatre, on a l'impression d'être moins seul dans le monde et du coup d'avoir une force de lutte.
Est-ce que les groupes de parole, c'est un outil que vous aviez utilisé aussi pour écrire Notre corps nous-mêmes ?
Oui, tout ouais. À fait. Oui, parce que c'est un livre qui est issu des années 70, en fait. D'abord aux États-Unis, qui s'appelait Our Bodies Ourselves. En fait, elles n'avaient pas l'idée d'écrire un livre. Elles se sont juste retrouvées à faire une espèce de trois jours de discussion sur les questions des femmes, quoi. Et à se retrouver dans un groupe où elles ont parlé de leur rapport à leur corps, d'avortement clandestin, de contraception, de galère, d'accouchement, enfin, plein de sujets ont fusé comme ça parce qu'elles se retrouvaient entre elles et que c'était sur la santé. Et qui ne voulaient plus s'arrêter du coup de discuter et qui ont continué à se retrouver en groupe de parole. En faisant ces groupes de parole-là, elles trouvaient des pistes parce que bon, les médecins, c'était quasiment que des mecs. Avec des trucs très normés sur la gynécologie, la contraception et tout. Et à un moment, elles se sont dit « Mais c'est con, on devrait écrire ce qu'on fait pour les autres camarades qui ne sont pas venus ou d'autres personnes dans le pays. » Et c'est comme ça que c'est devenu des brochures, puis un livre. Mais l'ADN, si on peut dire, de ce livre-là, c'est le groupe de parole. Et ce livre, il a été fait en français dans les années 70 après. Et donc, nous, vraiment, quand on l'a refait dans les années 2017-2020, quoi, on l'a complètement réécrit, mais c'était important de garder ce truc-là très fort des groupes de parole. Et donc, on le faisait d'abord entre nous, parce que nous, on ne se connaissait pas tant que ça. Donc, on faisait des groupes de parole sur tous les sujets, que ce soit les premières règles, la grossesse pour celles qui en avaient vécu, les relations sexuelles et tout, plein d'autres sujets. Et après, pour construire les chapitres en binôme, on allait organiser des groupes de parole. Donc comme ça, on a recensé qu'on avait interviewé à peu près 400 femmes et quelques personnes trans et non-binaires. Enfin, à la fois, c'était un matériau pour écrire notre livre, pour avoir des témoignages. Mais sur le moment, ça faisait émerger plein de choses. Même nous, on participait à chaque fois. Et ça fait rappeler des choses, ça fait mettre des termes sur des choses qu'on a vécues, se rendre compte qu'on n'est pas les seuls à les avoir vécues. Et donc, je trouve que ça politise très vite. Enfin, les groupes de parole, c'est un outil aussi important de politisation accélérée parce que c'est tout ce truc de la prise de conscience, de la conscientisation qui est un peu fondamental dans les luttes. C'est prendre conscience qu'on vit des choses communes, quoi, d'une condition commune dans ce monde. Et une fois qu'on en prend conscience, déjà on se rend compte qu'on n'est pas les seuls à vivre, mais que du coup, si on est plusieurs à vivre ça, par exemple des violences sexistes, sexuelles, c'est qu'il y a un problème de système et que c'est des violences systémiques et que du coup, il faudrait pouvoir lutter contre. Enfin, en tout cas, on peut lutter, on peut revendiquer la fin de ce système-là, quoi.
Je vais rebondir sur un truc que tu t'as dit tout à l'heure où tu disais... que tu es quasi certaine, voire certaine, que jamais tu t'arrêteras en disant « Ah, c'est bon, on a fini, on se repose, il n'y a plus de patriarcat, c'est fabuleux. Et moi, c'est une question qui me travaille un peu, de me dire, j'ai quelque chose en moi, que ce soit pour l'anticapitalisme ou le féminisme, de se dire, il n'y a pas d'action parfaite, ou en se disant, l'action qui permet de terrasser le patriarcat n'existe pas. Donc, c'est facile à dire, mais du coup, comment tu, du coup, gères cette frustration? Comment on se satisfait de petites avancées?
Ouais, moi je crois que j'ai pas encore eu de grand désespoir de sur les luttes en général. Enfin non, il y a régulièrement, je me sens quand même, je me dis c'est de pire en pire. Enfin, si on regarde la situation politique en France, c'est pas réjouissant, et sur les autres luttes sur lesquelles j'ai pu m'investir beaucoup dans le passé, par exemple sur les frontières et questions migratoires, c'est une catastrophe. Enfin, mais j'arrive quand même toujours à trouver des personnes autour de moi avec qui lutter, donc. Enfin, je sais pas, j'ai ce caractère qui me dit, en fait, j'ai pas le choix, je vais continuer, mais ça me déprime pas complètement de le faire. Enfin, je sais pas comment dire. En tout cas, j'ai pas complètement laissé tomber. J'ai parfois changé. Il y a des collectifs, ça m'a saoulé. Enfin, il y a des pratiques politiques, il y a des moments politiques où on s'est pris des claques, même entre nous, hein. Et du coup, pour revenir sur la question, bah ouais, je pense qu'il faut, il faut se satisfaire de. Des petites avancées, des moments où on se rencontre à plusieurs et qu'il y a une motivation partagée, de victoires en fait, des petites victoires. En tout cas, avec les féministes avec qui je trouve qu'il y a plus de bienveillance que dans d'autres milieux politiques où j'ai pu aller. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a de la bienveillance partout dans tous les milieux féministes, par ailleurs. Mais en tout cas, les personnes de qui je suis proche, par exemple sur le livre Notre corps nous-mêmes, dans le collectif. Je trouve qu'il y a cette bienveillance-là et cette émulation collective. Ouais, on va organiser des groupes de parole et se rendre compte que dans telle ville, on est réunis 5-6 personnes qui vivaient des galères de violence conjugale ou de garde partagée. Ben, en fait, on arrivait à trouver des ressources pour se défendre et que du coup, on voit la vie de certaines personnes changer, y compris la nôtre. Bah voilà, moi j'essaie de me satisfaire de ça. Ça veut pas dire que je me satisfais dans le sens, ça me permet de tenir, mais je me dis pas c'est bon, c'est gagné quoi. Et par contre, j'ai pu parfois avoir des expériences militantes où c'est juste plombant. Enfin, on perd un énorme immeuble d'habitation squatté pour tout le monde. Ok. Mais tout le monde se tire dessus après, et tout le monde est négatif. Et après, c'est normal, je veux dire, on perd, donc voilà. Mais voilà, il y a aussi des ambiances militantes, c'est un peu plus plombante que d'autres. Je pense qu'il faut réussir à ajuster. C'est pas du tout une leçon que je donne, hein, moi. Enfin, c'est pas évident, je crois qu'il y a beaucoup de... Ouais, gérer la santé mentale des militants et militantes, c'est une grande question aussi. Mais je pense que d'avoir des endroits un peu bienveillants, c'est chouette. Enfin, surtout, les féministes, par exemple, elles se font énormément... Celles qui sont présentes beaucoup sur les réseaux sociaux, elles se prennent énormément de harcèlement. C'est hyper violent, en fait. Ou les personnes racisées, les personnes antiracistes, militantes, c'est une catastrophe. Donc, par ailleurs, ces personnes-là ont des groupes un peu d'auto-protection et d'auto-défense, quoi, c'est chouette. Parce qu'il y a vraiment des gens qui encaissent plus que d'autres, quoi. Moi, je suis assez protégée de ça, donc déjà, je pense que ça aide.
Ma question, elle porte un peu sur les endroits qui sont justement pas vraiment politiques. Ça peut être l'école, justement, le boulot, les espaces sportifs qui sont pas vraiment dédiés à... qui sont pas des lieux militants, en tout cas, ça, c'est probablement... et pas réellement politique ou politisé. Est-ce que toi, tu le fais d'essayer d'instiller par-ci par-là des trucs politiques dedans, ou est-ce que tu préfères t'en préserver parce que ça peut amener à des trucs tendre des relations ou avec des aspects un peu conflictuels, quoi?
Ouais, c'est une bonne question.
Parce que finalement, c'est notre quotidien, quoi.
Ouais, tout à fait, tout à fait. Le travail, moi, je travaille chez moi, donc ça ne me concerne pas. Enfin, à part que je travaille en collectif. Mais du coup, ce n'est pas l'entreprise capitaliste classique, donc je ne peux pas vraiment parler de ce sujet. Sur l'école, moi, c'est vrai que je trouve que c'est rude parce que Mais sur les questions de genre, de discrimination raciale, tout ce que tu veux, je trouve que l'école, bah après c'est normal, c'est l'école de la République, donc c'est pas l'endroit de la lutte. Ça veut pas dire que les profs individuellement seront pas militants dans quelque chose, seront pas sensibles aux questions de genre, mais je trouve en tant qu'institution, elle est quand même reproductrice des rapports de domination de manière assez forte, assez visible dès la maternelle. On voit tout de suite les rapports de genre, les rapports entre les enfants blancs et les enfants non blancs. Ça m'a sauté aux yeux tout de suite. C'est un peu comme pour moi les magasins de jouets les jouets genrés. Enfin, je dis les magasins de jouets. Les représentations des dessins animés, enfin, sur les questions de genre et de race, je me dis à chaque fois, mais merde, on est en 2022, on n'a quand même pas beaucoup avancé. Et t'as beau essayer de dire des choses aux enfants, tu vas te retrouver avec des enseignements où ça va être les filles c'est ça, les garçons c'est ça, avec une reproduction assez énorme des normes, quoi. Et donc, par rapport à l'action, moi, j'ai deux enfants en âge crèche et école. Bon, moi, je ne me suis pas mise dans les trucs de représentant des parents ou quoi. Et je trouve que c'est vachement dur. Les rares fois où j'ai essayé de dire des trucs qui ne sont vraiment pas révolutionnaires, au niveau de la direction, ça ne passe pas du tout. Hein, sur des trucs tout cons, mais d'essayer de... de parler de la littérature enfant, enfin, qui sont un peu moins... que blanche ou que genrée, stéréotypée, des trucs à la con, quoi. Mais tu vois, ils sont très faites des mères, faites des pères, alors que la moitié des gamins de la classe n'ont pas de père, qu'il y a des enfants de femmes lesbiennes dans la même école, quoi. Et ça, j'ai l'impression que c'est sacro-saint, quoi. Tu vois, c'est des trucs comme ça où tu te dis, si ça, on peut pas bouger, je sais pas ce qu'on peut bouger. Donc voilà, pour le coup, je lutte pas trop là. À cet endroit-là. Mais moi, je pense que j'ai un rapport à l'école. Je me sens un peu comme une élève encore. Enfin, j'ai jamais été instruite ni rien. J'ai toujours été à l'école en tant qu'élève, quoi. J'ose pas trop aller m'immiscer dans les histoires du côté personnel éducatif et hiérarchie scolaire. En tout cas, dans l'école de mes filles. Mais c'est vrai que moi, je l'investis pas trop comme un truc de lutte. Et par contre, j'investis plus la relation interpersonnelle avec des parents, notamment des mères d'élèves qui sont des amis de ma fille, mais en fait qui ne viennent pas du même milieu que moi, qui n'ont pas les mêmes origines, qui n'ont pas les mêmes métiers, qui ne vivent pas les mêmes choses. Et en fait, j'investis plus ça, quoi. Pas de la propagande, enfin, d'essayer de faire émerger des choses et des fois des personnes, de leur donner un ou deux outils, une ou deux ressources. Ou juste dire, mais oui, t'as raison d'être énervé ou de te sentir mal, d'être écrasé comme ça dans le boulot, par ton mec, etc. Et donc, moi, j'investis plutôt ça.
Du coup, je reviens sur encore une fois un truc que t'as dit. Quand je te posais la question sur gérer la frustration, etc., tu parlais de prendre soin et de se dire comment on gère notre santé mentale. Et du coup, ça me fait plaisir de partager un texte qui a pas mal résonné. En plus, tu parlais des filles sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un texte d'Anaïs Bourdet de Pays Tachnek, qui a fait un peu une sorte de burn-out militant, je ne sais pas si tu en avais entendu parler. Et ce texte me parle vachement parce qu'elle parle justement du fait que, pour la lutte féministe, en fait, on ne s'arrête pas d'être femme quand on rentre chez nous. On l'est toujours et qu'on ne peut pas avoir cette sorte de dissociation. Au contraire de d'autres luttes, celle-ci, elle fait vraiment partie de notre identité. Et donc, je trouve que c'est assez intéressant et donc je voulais le partager aujourd'hui. Donc, c'est un texte d'Anaïs Bourdet qui est paru... dans Feu, l'abécédaire des féministes présents, qui a été coordonné par Elsa Dorlin. Et c'est Estelle qui nous fait le plaisir de le lire. Et on la remercie.
Militante, activiste, femme engagée. Je déteste ces mots. On n'a pas arrêté de me les imposer, de les employer pour me définir sans me demander mon avis. J'ai fini par m'en servir aussi, faute de mieux, faute de réussir à expliquer ce qui me dérangeait. Je n'ai pas fait le choix de lutter, j'ai dû et je dois le faire. Je n'ai pas décidé de défendre une cause importante, au choix parmi toutes celles qui le méritent, car c'est ma cause que je défends, je l'incarne de la tête aux pieds, depuis mes mots jusqu'à mes tripes. C'est de ma vie et de ma dignité qu'il s'agit. J'ai dû et je dois encore me défendre. J'étais victime, je suis devenue militante. On me réduit désormais à ce mot que je ne comprends pas, qui exclut de fait la possibilité que je sois toujours victime, alors que mes convictions ne me protègent d'absolument rien. On me dit en lutte, alors que les hommes me font la guerre depuis ma naissance, font la guerre à ma mère, l'ont faite à ma grand-mère, et à toutes celles qui nous ont précédées. Ce n'est pas moi le soldat, ce n'est pas moi qui vais au conflit, et qui attaque des civils pour protéger tout un système de domination. Les hommes, eux, s'engagent activement dans cette lutte en tuant, en violant, en agressant, en harcelant, en écrasant. Je ne m'engage pas, moi, je résiste. Je n'ai pas choisi la cause des femmes, encore une série de mots que je n'aime pas. Ça ne veut rien dire, la cause des femmes. Il n'y a pas de cause des femmes sans problème d'hommes. Pourquoi ne les nomme-t-on pas, eux ? Les violences faites aux femmes, est-ce qu'elles tombent du ciel ? Et les autres, toutes les personnes qui ne font rien, ne défendent rien, pourquoi ne les nomme-t-on pas ? Si je suis une activiste, une militante, alors qui sont ces personnes ? Des fainéantes ou des fainéants ? Des personnes sans problème ? Des individualistes ? Pourquoi c'est toujours moi qu'on nomme ? Dans les médias, dans les débats, je suis soit victime, soit militante. Victime passive, plaintive, abîmée. Militante agressive, combative, dangereuse. Toujours réduite, jamais complexe, mais entourée d'une extraordinaire absence, celle des hommes violents. Ils n'ont pas de visage, pas de nom, pas d'existence. Un vrai fantasme. On parle aussi, beaucoup, de ma haine des hommes, mais leur haine des femmes. Quand en parlerons-nous ? Ma colère vient des horreurs qu'ils nous font endurer, massivement, depuis des siècles. Pourquoi dépensent-ils autant d'énergie à nous réduire et nous traumatiser ? Comment faire pour qu'ils cessent d'être violents ? Pourquoi ne les pose-t-on pas, ces questions-là ? Je suis une femme qui se défend contre les violences que les hommes lui infligent. Voilà ce que je suis. Je ne fais que ça, me défendre, depuis tout ce temps. Je suis épuisée d'avoir à le faire, et je ne veux pas connaître la longueur d'une vie qu'on subit.
Qu'est-ce que ça t'évoque ?
Ben moi déjà, je le trouve très beau ce texte, hein, bien écrit, tout ça, j'aime bien. Moi, la peut-être différence, c'est que je me dirais quand même militante et victime aussi. Hein. Mais voilà, je n'ai pas trop de problèmes à ce qu'on m'étiquette, mais je comprends si on se fait harceler qu'effectivement... Moi, c'est un peu devenu aussi un truc que j'ai voulu revendiquer parce que sans me faire harceler sur les réseaux sociaux, je me suis fait plein de fois traiter de féminazie, de meuf en colère dans les cadres familiaux et tout. Et j'ai envie de prendre ce contre-pied-là et dire bah oui, en fait, je lutte pour ça. Mais par contre, sur le reste, moi, je suis complètement d'accord avec elle. Dans notre corps nous-mêmes, sur la... moi, j'avais écrit le chapitre sur les violences et l'autodéfense. Et justement, dans l'intro de ce chapitre, je disais mais qui fait la guerre à qui, en fait ? Enfin, c'est pas les... quand on entend... ouais, les féministes, elles font la guerre aux hommes. Enfin, c'est exactement ce qu'elle dit. C'est qui fait la guerre ? C'est pas nous qui la faisons. Et du coup, je trouve ça super beau comme elle le décrit. Je suis d'accord avec elle aussi. Je peux me dire militante, mais je suis aussi surtout, je me défends personnellement, quoi, et collectivement contre les violences.
Ok. Et du coup, elle parle, enfin, de dire de l'émotion que ça lui amène et tu l'as déjà un peu dit tout à l'heure, mais du coup, je la repose, cette question-là. Comment se protéger émotionnellement quand on vit des luttes comme ça, enfin, quand on lutte pour des sujets qui nous concernent intimement.
Mais c'est vrai que quand j'ai vu la question, je me suis dit, bon, je ne suis pas la meilleure personne pour en parler parce que je ne suis pas vraiment sûre que j'arrive à me protéger émotionnellement et de donner cette importance-là. Et parfois, on en discute avec les camarades en se disant, mais... ouais, qu'on encaisse, quoi. Enfin, moi, je travaille beaucoup sur les violences, mais... travailler sur l'autodéfense me permet de me protéger émotionnellement dans le sens où, ben, du coup, je réponds à la question en disant ça. C'est que moi, j'ai travaillé beaucoup sur les violences les violences patriarcales. Et une manière de m'en protéger, c'est de travailler sur l'autodéfense. Parce que Bah, du coup, je suis quand même amenée à interviewer des personnes qui ont vécu des trucs hardcore, comme plein de monde, quoi, mais qui auront soit fait de l'autodéfense, soit eu des histoires de réussite sur des agressions. Et donc, parler de ce qu'on peut faire et mettre en place malgré tout, ça me permet, moi, personnellement, de me protéger émotionnellement aussi. De me dire, bah, oui, il y a des stratégies, on peut se défendre. Enfin, c'est pas juste... on va tout subir, et pour des générations entières. Et en fait, depuis toujours, les femmes se sont défendues. Donc, ça, c'est une manière, finalement, de m'en protéger émotionnellement. Ouais, moi, je pense que j'encaisse... Enfin, dans des enquêtes, je vais encaisser beaucoup de choses. Je vais pas forcément me protéger. Enfin, des fois, je vais être un peu à me dire c'est trop violent, et à me retrouver dans des situations comme ça d'épuisement militant et moral et politique. Je trouve qu'on encaisse beaucoup de violence, hein, que ce soit sur la question du genre, mais sur la question, je sais pas, de la violence sociale qu'il y a dans notre société, de la violence raciste, enfin le déferlement. En fait, moi, je me sens... il y a des fois, je me sens tétanisée, en fait, un peu en état de sidération, en me disant, mais il se passe trop de choses, hein, on nous attaque de tous les côtés. Et ça, je trouve que c'est plus dur émotionnellement. Les fois, on arrive à agir sur des trucs, c'est un peu moins dur, malgré tout. Et du coup, ouais, ce qui se passe socialement dans notre pays en ce moment, des fois, je suis un peu en sidération. Là, je ne sais pas comment agir, je me sens dépourvue. Et là, c'est dur émotionnellement, vraiment. Et il y a un autre sujet aussi où je trouve ça dur, c'est en ayant deux filles petites, c'est que je trouve ça... Mais pour toutes les petites filles, tous les enfants aussi que je vois autour de moi, je me dis, mais... Parce que j'ai travaillé sur aussi les violences sexuelles faites aux enfants et les violences générales faites aux enfants, quoi. C'est rude parce que les pistes de sortie sont pas très réjouissantes. Enfin, il n'y a pas grand-chose. Il y a un rapport de domination énorme et un tabou énorme. Et que ça n'avance pas. Enfin, là, on parlait d'éducation nationale. C'est des sujets qui sont tabous dans l'éducation, qui sont tabous chez les médecins, qui sont tabous partout. Et pour le coup, des fois, j'ai un peu ce truc où j'arrive pas. J'ai l'impression qu'émotionnellement, c'est dur, quoi. Que je trouve pas la piste.
Ok, donc lutter, c'est se protéger.
Ben ouais, quelque part. Oui, moi je le vois comme ça, sauf jusqu'au moment où on s'épuise trop, quoi. Je vois que quand je lutte pas sur un truc ou je me rapproche pas d'autres gens, je vais être plus affectée émotionnellement par ce qui se passe. Parce que je vais avoir l'impression de que subir et de pas me défendre, que ce soit collectivement. Je me défends pas forcément pour moi, pas forcément moi qui ai attaqué, mais... Moi, des fois, de faire des enquêtes, du travail militant, ça me permet de gérer ces angoisses-là, finalement. Parce que je vais fouiller pour trouver les pistes d'autodéfense sur tous ces sujets-là.